soirée et bel été avec RTL.
Et bonsoir à toutes et à tous. Retour ce soir dans l'heure du crime sur un drame qui a bouleversé la France il y a 25 ans, l'affaire de la Josacine empoisonnée. Le 16 juin 1994, une petite fille de 9 ans, Émilie Tanné, mourait après avoir absorbé un sirop antibiotique empoisonné au cyanure. Moins de 2 mois plus tard, on apprenait qu'un proche de la famille qui hébergeait la petite fille ce week-end-là, Jean-Marc de Perroy, était accusé d'avoir empoisonné le sirop pour se débarrasser de l'époux de sa maîtresse, sans se douter qu'il s'agissait d'un médicament pour enfants. Il y aurait donc eu erreur sur la personne. Malgré ses protestations d'innocence, le suspect numéro 1 est finalement condamné à 20 ans de prison en 1997 et par 2 fois déjà, ses demandes de révision ont été rejetées par la justice. Jean-Marc de Perroy a effectué 12 ans de réclusion, puis il a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2006. Aujourd'hui, il a récupéré tous ses droits, y compris celui de s'exprimer publiquement sur son affaire, et il a accepté de rencontrer à plusieurs reprises ces dernières années la mère de la petite victime, Corinne Tanné. Ce soir, nous revenons sur l'ensemble de l'affaire avec les invités de l'heure du crime.
20h, 21h.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et rebonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'heure du crime, une émission qui, comme chaque soir, a été préparée par Justine Vigneault avec Amandine Lemaire, et c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée entièrement à un retour sur l'affaire de la Josacine empoisonnée. Après la publication aux éditions Grasset du livre de Corinne Tanné, la mère de la petite Émilie. Ce livre s'intitule « La réparation volontaire ». Il est vrai qu'il est très rare en France qu'une mère entreprenne de replonger à son tour dans une enquête et qu'elle rencontre finalement celui qui a été condamné pour le meurtre de son enfant. 4 fois 7 heures d'entretien pied à pied, dont une grande partie est donc publiée dans le livre que je viens d'évoquer à l'instant. Invité de cette émission ce soir, Jean-Michel Dumay. Il est journaliste indépendant, ancien chroniqueur judiciaire au Monde entre 1994 et 2002. Bonsoir Jean-Michel Dumay.
Bonsoir.
On peut dire que vous avez évidemment plongé dans cette affaire, dans le procès qui a suivi en 1997. Vous l'avez dit vous-même, je crois, cette affaire m'a dévoré.
Complètement, oui. J'ai couvert le procès pour Le Monde. Je suis ressorti de ce procès avec une conviction, c'était que le doute aurait dû profiter à l'accusé. Puis ensuite, j'ai enquêté pendant 4-5 ans, j'ai replongé dans ce dossier. Ma contre-enquête est parue dans Le Monde d'abord, puis ensuite a fait l'objet d'un livre.
Chez Stock, en 2003. Affaire Josacine, le poison du doute.
Et j'étais amené à émettre une hypothèse alternative à l'accusation à l'époque. Ce livre a fait l'objet, le livre et la contre-enquête d'ailleurs ont fait l'objet de poursuites en diffamation, et cette hypothèse a finalement, à un moment donné, été reconnue plausible par le tribunal du Havre. Mm-hmm. Voilà, on nous expliquait au moment du procès que c'était un crime passionnel raté, et avec une erreur sur la victime. Et en fait, j'étais arrivé à la conclusion qu'il s'agissait plus vraisemblablement d'un accident au domicile des gens qui gardaient la petite Émilie ce soir-là, et que cet accident n'avait pas été assumé, et qu'en fait, on avait essayé de camoufler cet accident au moment où il s'était agi de rapporter un médicament à l'hôpital. Voilà,
voilà, et donc en introduisant notamment du cyanure, on en reparlera évidemment beaucoup tout à l'heure. Quand je disais, je vous citais, parce que j'ai lu cela dans un article, cette affaire m'a dévoré, cette affaire a fait naître aussi une amitié, une véritable amitié avec un A majuscule, entre vous et Jean-Marc de Perroy.
Oui, cette amitié, elle est née à la sortie de prison de Jean-Marc de Perroy. Moi, j'avais mené un travail indépendant, si vous voulez, mais d'ailleurs même de la défense à l'époque. Mmh. Et voilà, quand on s'est retrouvé à la sortie de prison, on est tombé littéralement les bras dans les bras l'un de l'autre. Et c'est aujourd'hui, j'allais dire, quasiment un membre de ma famille, et réciproquement. Et je peux d'ailleurs à ce sujet témoigner de ce que c'est que d'accompagner un homme qui, maintenant depuis 25 ans, et donc depuis 13 ans depuis sa sortie de prison, clame son innocence et essaye de trouver un élément nouveau pour pouvoir faire réviser son procès et être réhabilité.
Voilà, il va entamer, mais ça on en parlera tout à l'heure avec Maître Valérie Rosano, du barreau de Paris, qui est l'une des avocates de Jean-Marc du Perrois, ils vont déposer vraisemblablement, elle nous dira quand, une troisième demande en révision. Mais dans les deux demandes précédentes, il faut toujours un fait nouveau. On reparlera certainement de cela, même si la procédure a un peu évolué depuis quelques années. En tout cas, au cœur de, je crois, des deux demandes de révision, d'ailleurs, il y avait des éléments sortis de votre contre-enquête dont on vient de parler. D'une part, cet accident domestique possible qui aurait conduit les Tocqueville à maquiller finalement cet accident domestique pour fuir leur responsabilité, si vous appelez les choses par leur nom. Et puis, il y avait également des écoutes téléphoniques qui étaient certes au dossier, mais qui n'avaient été écoutées, je crois, par personne. On peut en dire un mot, parce que ces écoutes téléphoniques éclairaient d'un jour tout à fait nouveau le dossier.
Alors effectivement, au cours de mes recherches, je suis tombé sur des écoutes qui n'ont fait l'objet d'aucune exploitation par les gendarmes à l'époque, ni par le juge d'instruction, qui n'ont pas non plus été évoquées au procès. Quand je les ai trouvées, j'étais même très surpris qu'elles n'aient pas surgi. Et dans ces écoutes, on a deux hommes qui parlent ensemble. Les plus âgés peuvent peut-être se souvenir de ce moment assez rare, où un présentateur de télévision, c'était Étienne Lénard sur la 2, explique que la josacine est retirée du marché. Et bien à ce moment-là, deux hommes se parlent, et puis deux hommes qui sont restés avec ce fameux flacon dont tout le monde parle, et l'un dit à l'autre très clairement, il faut qu'on sache, parce que tu vas passer tout à l'heure avec ton produit que tu as mis dans la josacine. Voilà. Et puis il y a plein d'autres éléments qui étaient troublants dans cette écoute, puisque l'une d'elles se terminait par « de toute façon on est bien clair, on s'est pas vu dans la journée ». Bon. Et ces écoutes-là n'avaient absolument fait l'objet d'aucune question aux deux personnes en question.
Voilà. Donc voilà les éléments qu'il fallait rappeler. Il faut ajouter, mais ça on en reparlera tout à l'heure, que c'est vous qui avez été finalement l'intermédiaire entre Corinne Tanet et Jean-Marc Duperrois, lorsque Corinne Tanet, qui, elle le dit elle-même, a voué une haine sans limite à celui qui avait été condamné pour le meurtre de sa fille, a décidé pour son nouveau livre d'entamer une série de discussions, de conversations, d'entretiens, parfois à la tonalité très très forte et très dure, qui sont retranscrits pour partie dans ce livre. Donc c'est à vous qu'elle s'était adressée, mais nous en parlerons tout à l'heure, pour nouer un lien, aussi curieux que cela puisse paraître, après les propos qu'elle avait tenus auparavant, avec donc Jean-Marc Duperrois. Une pause tout de suite, la première dans cette émission, et ensuite, en quelques mots, nous allons nous rappeler les circonstances dans lesquelles cette affaire a éclaté.
L'heure du crime.
Jacques Pradel.
Jusqu'à 21h sur RTL.
L'heure du crime
sur RTL.
Nous sommes le jeudi 16 juin 1994. À l'issue du journal de 20h ce soir-là sur France 2, la chaîne diffuse un communiqué des laboratoires Bellon qui indique qu'une fillette est morte après avoir absorbé l'antibiotique liquide le plus prescrit à l'époque aux enfants par les pédiatres, la josacine 500. Il est demandé aux parents qui regardent l'émission d'interrompre par mesure de précaution tout traitement, jusqu'aux résultats des analyses qui sont en cours. Cette alerte est relayée par tous les médias, dont RTL, dans la voix du journaliste Laurent Pérard.
Les premiers éléments laissent penser qu'il s'agirait d'un acte isolé et malveillant. Toutefois, par mesure de sécurité, les laboratoires Bellon ont décidé de rappeler le médicament concerné. Il s'agit donc de l'antibiotique Josacine 500 mg en soluté buvable. Le lot désigné est le lot 3097 et toutes les personnes qui ont chez eux de la Josacine 500, 250 ou 125 mg du lot 3097 sont invitées à le remettre immédiatement à leur pharmacien pour analyse. Et puis deux informations pour rassurer les parents qui soigneraient leurs enfants avec ce médicament. Tous les flacons encore amendus du lot litigieux ont été testés et ne présentent aucun danger. Et puis il faut savoir que la petite fille qui est décédée après absorption du médicament a eu des symptômes aigus et immédiats. Pas de panique donc si vous avez pris ou administré de la Josacine dans les heures précédentes. Contentez-vous de ramener le médicament à votre pharmacien.
Très rapidement, l'enquête s'oriente effectivement vers un acte de malveillance. Et le 17 juin, au lendemain du lancement de l'alerte, le porte-parole du laboratoire Bellon, monsieur Henri Di Marco, répond aux questions de Bernard Poirette et de Jacques Esnoux sur RTL.
C'est un produit mortel qui a, semble-t-il, été introduit de manière malveillante dans un flacon.
Donc effectivement, c'est un produit qui n'entre pas dans la composition du médicament, qui est totalement étranger, qui était en doses apparemment très fortes, et dans un seul flacon à ce jour, fort heureusement.
Monsieur Di Marco, comment pouvez-vous être affirmatif quand vous dites « il ne s'agit que d'un seul flacon » ?
Non, je dis « à ce jour, il n'y a qu'un seul cas qui a été signalé ». Et c'est la raison pour laquelle, par souci de sécurité maximale, en accord avec l'Agence française du médicament, nous avons dès hier matin ordonné le retrait de tous les produits et informé largement le public pour éviter effectivement que si un deuxième flacon avait été contaminé ou plusieurs de façon criminelle, le risque soit pris par la population.
Alors le produit est interdit à la vente pour le moment et tous les gens qui en ont chez eux doivent les ramener chez les pharmaciens ?
Tous les gens qui en ont chez eux, les consignes données, c'est de les rapporter effectivement chez le pharmacien. Et il faut également préciser que lorsqu'il s'agit d'une prise qui date de plus de 2 ou 3 heures, il n'y a absolument aucun danger. C'est-à-dire s'il n'y a pas eu de symptômes depuis la prise, au-delà de 3 heures, il n'y a plus aucun problème.
Tout avait commencé le samedi 11 juin, 5 jours plus tôt donc, lors d'un week-end qui avait déjà un avant-goût de vacances pour les enfants de Gruchet-le-Valas en Seine-Maritime. À l'occasion de la traditionnelle kermesse de fin d'année scolaire qui se déroule dans l'école du village, la municipalité de Gruchet organisait sur 2 jours une grande fête médiévale avec défilés costumés, animations de rue et repas de fête en soirée. Ce jour-là, vers 15h, Émilie Tanet, une fillette âgée de 9 ans, quitte avec sa maman Corinne son domicile de Saint-Jean-de-la-Neuville, en Haute-Normandie, pour se rendre dans le village voisin de Gruchet, où elle a été invitée chez l'une de ses camarades de classe. Sylvie et Jean-Michel Tocqueville, parents d'un petit Jérôme, copain également d'Émilie, accueillent la fillette dans leur logement de fonction à la mairie de Gruchet, où Sylvie est secrétaire générale. Vers 15h30, Émilie est prise en charge par Jean-Michel Tocqueville. La petite fille a choisi pour la fête un costume de bouffon. Jérôme, lui, un habit de page, comme son petit frère de 5 ans, Bertrand. Les enfants jouent dehors en attendant le défilé. Corinne Tanet a signalé au couple qui va héberger Émilie ce week-end que sa fille souffre d'une petite bronchite. Elle devra donc prendre 2 médicaments au moment des repas, de la Josacine, un sirop antibiotique contenu dans un flacon qu'elle vient de préparer à son domicile, et de l'exomuc, un expectorant qui se présente sous la forme d'une poudre en sachet qu'il faudra diluer dans un verre d'eau. Vers 16h30, les enfants accompagnés de Jean-Michel Tocqueville quittent le logement de fonction et vont défiler dans les rues du village. Une heure plus tard, ils sont de retour, ils prennent un goûter, regardent un peu la télé et font des va-et-vient entre l'intérieur de la maison et la place de la mairie pour regarder les animations de rue. En début de soirée, tout le monde se prépare à partir en voiture pour participer au repas médiéval organisé à quelques kilomètres de là, à l'abbaye du Valas. Il est 20h15, les Tocqueville, leurs enfants Jérôme et Bertrand ainsi qu'Émilie s'approchent du garage à quelques dizaines de mètres de la mairie. Et en arrivant à la voiture, Émilie se plaint de maux de tête, d'avoir envie de vomir. Elle s'effondre soudain comme une masse. L'enfant a perdu connaissance. Elle jeûne, elle bave, elle est prise de convulsions. Jean-Michel Tocqueville et son épouse sont affolés, paniqués. Jean-Michel prend l'enfant dans ses bras, revient vers la maison, la dépose dans un canapé du salon. Il tente alors, sans succès, de joindre les parents d'Émilie qui sont partis, eux, ce soir-là, au restaurant, mais sans succès. Les Tocqueville appellent alors les urgences médicales, ainsi qu'un ami commun, Denis Lecointre, qui habite Bolbec et qui va les rejoindre sans tarder chez eux, à Gruchet. Le SMUR, le service médical des urgences de Lillebonne, arrive dans les minutes qui suivent, il est 20h25, les médecins examinent Émilie et ils constatent que son état est d'une extrême gravité. On la transfère immédiatement aux urgences pédiatriques de l'hôpital du Havre. Malgré tous les efforts du service de réanimation, Émilie décède à 22h20. Le 17 juin 1994, au lendemain du communiqué diffusé sur les télévisions, la presse annonce que la cause du décès de la petite fille est identifiée. Elle a absorbé du cyanure qu'on a trouvé dans le flacon de Josacine, le sirop qu'elle prenait pour soigner sa légère bronchite. Accident ? Acte de malveillance dirigé contre les Tocqueville ou contre le laboratoire Bellon qui commercialise la Josacine ? S'agit-il d'un crime volontaire ? Mais qui peut en vouloir à une petite fille de 9 ans ? La section de recherche de la gendarmerie de Rouen est chargée de l'enquête et un juge d'instruction est désigné. Deux mois plus tard, le 19 août 1994, un énorme coup de théâtre intervient dans l'enquête. On apprend en effet ce jour-là que la Josacine aurait été volontairement empoisonnée par l'amant de Sylvie Tocqueville qui aurait voulu ainsi se débarrasser de l'époux de celle-ci sans savoir que la Josacine était un médicament destiné aux enfants. On apprend également que ce suspect numéro 1 avait été interpellé et incarcéré dans la plus grande discrétion depuis plusieurs semaines. Sur RTL, les explications de Xavier Benerozo.
L'enfant de 9 ans n'est pas morte, comme on a pu l'envisager au début des investigations, à cause d'un fou qui aurait semé du cyanure au hasard dans les flacons de Josacine. La piste familiale a elle aussi disparu. Au total, une dizaine d'hypothèses ont été complètement balayées. Restait donc l'entourage de la famille, deux couples, amis des parents, dont les Tocqueville avaient été rapidement entendus. Et c'est comme cela, vraisemblablement, que l'on est arrivé à expliquer le drame. Jean-Marc de Perrois, maire adjoint de Gruchet-le-Valas, aimait celle qui, ce jour-là, gardait Émilie. Sylvie Tocqueville, qui était mariée. Le gérant de société voulait se débarrasser du mari de sa maîtresse. Une solution radicale, le faire disparaître. Tragique méprise, ce sera la petite fille qui ingurgitera le flacon empoisonné qui ne lui était pas destiné. Il y a dans ce dossier beaucoup de ragots, beaucoup de rumeurs qui courent, expliquait hier un avocat qui a eu accès au dossier. Une manière comme une autre de dire que même si un patron d'entreprise est actuellement sous les verrous, il faudra tout de même que le juge prouve la culpabilité d'un homme qui jusqu'ici nie être celui qui a tué Émilie par erreur.
Cette hypothèse du crime passionnel avec erreur sur la personne sera donc la seule qui sera retenue par l'instruction. Le piège va se refermer sur Jean-Marc de Perrois qui sera condamné 3 ans plus tard, malgré ses protestations d'innocence, à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Seine-Maritime. Une pause tout de suite dans cette émission et nous revenons sur ce dossier, sur cette instruction avec Jean-Michel Dubé.
L'heure du crime sur RTL.
Une émission spéciale de l'heure du crime sur l'affaire de la Josacine empoisonnée avec pour l'instant Jean-Michel Dumay. Nous aurons tout à l'heure l'avocate, l'une des avocates de Jean-Marc Deperrois qui s'apprête, mais elle nous donnera tous les détails, à déposer une troisième demande en révision parce que après avoir effectué 12 ans de réclusion, Jean-Marc Deperrois continue à clamer son innocence et souhaite bien sûr être réhabilité par le biais d'un nouveau procès. Alors, Jean-Michel Dumay, on revient là, on a rafraîchi la mémoire de tout le monde. Quelles autres hypothèses que celle qui a tout de suite été affirmée, l'erreur sur la personne d'un amant jaloux voulant se débarrasser du mari de cette Madame Tocqueville. J'imagine que les gendarmes n'ont pas émis qu'une seule hypothèse.
Non, ils ont enquêté tous azimuts. Donc, par exemple, ils ont recherché s'il n'y avait pas eu un problème dans la fabrication du médicament.
Hein, bien
parce
sûr,
que c'est ce qui a déclenché notamment l'arrêt de la fabrication de ce médicament.
Ouais.
Et ils ont cherché, ils ont interrogé tout le monde, ils ont placé tout le monde en garde à vue pour essayer de découvrir ce qui avait pu se passer. Le problème, c'est que ils n'ont raisonné. Enfin, dans tous les cas, c'était l'élément que j'apportais après avoir revu tout ce dossier. Il n'avait raisonné que dans un seul cadre, c'est que l'enfant avait ingéré un médicament empoisonné. Et je m'étais aperçu qu'en fait, il n'avait jamais réfléchi à une autre hypothèse, qui était qu'elle avait pu absorber un poison, cet enfant, et que ce poison avait pu être versé a posteriori dans le médicament, pour faire porter le chapeau au médicament et échapper à une poursuite quelconque, si vous voulez. On est plutôt dans le cadre d'un défaut de surveillance. Voilà, hein, c'était plutôt ça.
D'accord. Mais il n'en reste pas moins que Émilie Tanet est morte par empoisonnement et après avoir absorbé du cyanure.
Ça, c'est une certitude.
D'accord.
Oui.
Et ce cyanure, alors, va être évidemment un point dont on va beaucoup parler, parce que Jean-Marc de Perroy, ça va être au cœur de son procès quelques temps plus tard. Jean-Marc de Perroy va dire que il n'a jamais eu de cyanure à sa disposition. Or, dans son métier, il en utilisait et les enquêteurs vont le prouver.
Alors, il avait expliqué, c'était ses explications à l'époque, qu'il, pour les besoins de son entreprise, il faisait des expériences. Il avait acheté 1 kilo de cyanure 1 mois avant le drame. Et il s'en est débarrassé quelques jours après le drame.
Voilà, en jetant à la Seine, je crois.
Alors, c'est vrai que ce qui l'a, évidemment, ce qui lui a valu tous ses déboires par la suite et son incarcération, sa condamnation, etc., c'est le mensonge initial.
Bien sûr.
Certains disent qu'il a menti plusieurs fois, 57 fois, je crois. En fait, c'est le même mensonge, c'est 57 fois le même mensonge, c'est je n'ai pas d'étude de cyanure, j'ai pas d'étude de cyanure. Ouais. Jusqu'à ce qu'à un moment, un gendarme lui dise, mais en vous entêtant comme ça, vous faites un coupable idéal. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, vous avez raison. Non, j'en ai eu.
J'ai menti.
Voilà, voilà. J'ai menti, mais je n'ai rien à voir avec cette affaire. Malheureusement, il avait menti. Et c'était parti.
Alors, et puis il y a l'enquête. Alors là, on n'est plus dans les hypothèses de l'instruction qui ont toutes été balayées au profit de celles impliquant Jean-Marc de Perroy. Mais vous reprenez tout le dossier, quasiment ligne à ligne, pièce par pièce, et vous dites, mais finalement, il y a là aussi une autre hypothèse, et vous émettez donc cette idée qu'il aurait pu y avoir un poison.
Et vous évoquiez tout à l'heure la décision du tribunal du Havre qui a estimé plausible mon hypothèse. Le tribunal a notamment considéré que j'établissais qu'il avait pu y avoir du cyanure chez les Tocqueville ce soir-là. Et d'ailleurs, même Madame Tocqueville, Sylvie Tocqueville, donc la mère qui gardait Émilie avec Jean-Michel Tocqueville ce jour-là, a reconnu lors de ce procès, c'était il y a 14 ans, que mon hypothèse, pour elle aussi, était plausible.
Oui. Alors, Corinne Tanet, de son côté, puisqu'on a dit tout à l'heure, c'est vous qui avez facilité, à la demande de Corinne Tanet, cette rencontre, quand même, qui est hors norme et très, très rare, voire unique, entre la mère d'une victime, dans un fait divers, bon, le mot est terrible par rapport au drame qu'elle a vécu, mais comment est-ce que Jean-Marc de Perroy a accepté cette rencontre?
Écoutez, ça a mis un peu... Donc Corinne Tanet m'a demandé en novembre 2015 de le rencontrer. Elle m'a aussi fait part de ses doutes. Il faut savoir que moi, je l'avais rencontré déjà. Maintenant, ça fait une vingtaine d'années. On se connaissait. Elle avait pu déjà me dire qu'elle partageait certaines de mes interrogations. Néanmoins, elle avait une expression publique farouchement opposé à Jean-Marc de Perroy et accessoirement contre moi également, puisque je me livrais, selon elle, à une manipulation médiatique à l'époque. Mais en même temps, donc il y a 4 ans, je me rends compte qu'elle a vraiment une volonté d'enquêter, et je convainc finalement assez facilement. On a eu des problèmes dans notre emploi du temps pour nous réunir parce que Jean-Marc Depardieu voulait absolument que je sois là. Oui. Et du coup, Corinne Tanet a demandé aussi à quelqu'un. Et lors de la première rencontre, nous étions quatre, deux silencieux. Mmh. Ils se sont rencontrés. Ils ont vu qu'ils pouvaient tous les deux être, enfin voilà, parler avec le respect qu'il convenait et en toute confiance.
Voilà, et ça a donné donc ce livre qui vient de paraître aux éditions Grasset, La réparation volontaire. Dans un petit instant, après la pause, nous reviendrons sur la façon dont c'est très mal défendu, je crois qu'on peut le dire, Jean-Marc Depardieu au cours de son procès, et les conséquences aussi des débats qui ont eu lieu au moment de chacune de ces deux précédentes demandes de révision.
Jusqu'à 21h sur RTL,
Jacques Pradel,
l'heure du crime. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime consacrée à l'affaire de la Josacine empoisonnée, et nous sommes pour l'instant en compagnie de Jean-Michel Dumay, ce journaliste, ancien chroniqueur judiciaire au Monde, qui avait suivi de 1994 à 2002, on peut le dire, quoi, cette affaire, les faits d'abord, et puis le procès de 1997, et on va parler tout de suite, Jean-Michel Dumay, de ce procès de 1997. À l'époque, il n'y avait pas d'appel, hein, donc c'était un procès unique, qui a vu la condamnation de Jean-Marc Depardieu à 20 ans de réclusion, selon l'accusation, donc, qui a été entendue par les jurés. Il aurait donc commis cet acte volontairement, empoisonné un sirop, peut-être en pensant qu'il était destiné à un adulte, mais enfin, il aurait commis les faits, empoisonnement avec préméditation. Le 22 mai 1997, on est à peu près à 15 jours après l'ouverture du procès, Jean-Marc Depardieu va s'exprimer très longuement, tout en continuant évidemment à clamer son innocence. Jean-Claude Larivoire, qui suivait ce procès pour RTL, nous raconte cette audience.
C'est d'un ton calme et avec tous les accents d'une profonde sincérité que Jean-Marc Depardieu a déclaré ce matin aux parents d'Émilie qu'il comprenait leur douleur, tout en affirmant n'être en rien responsable de ce drame. Mais c'est la voix brisée par les sanglots qu'il a parlé de ses propres malheurs, de ses 3 ans d'incarcération. « Je me suis trouvé pris dans l'étau de la machine judiciaire, tout cela pour avoir menti sur le cyanure que j'avais eu en ma possession. » Et c'est en pleurant à nouveau cet après-midi que, répondant aux questions du président, il déclare « Je suis ici pour ce mensonge, une véritable faillite pour un homme. » Le président Reynaud, qui occupa ses fonctions à Lisieux puis à Évreux, est resté juge d'instruction dans l'âme. Au cours de ce procès, il a refait presque mot à mot l'instruction de l'affaire. Et il recommence inlassablement aujourd'hui à l'occasion de l'interrogatoire. Il obtient les mêmes réponses que ses prédécesseurs lorsque soudain s'ouvre une faille. « Quand avez-vous su que la mort d'Émilie était due au cyanure ?» Eh bien par un ami qui venait de l'entendre à la télé, c'était le 16 ou le 17 juin 1994, répond Depardieu. « Quand avez-vous jeté votre cyanure à la Seine ?» Longue hésitation, j'ai jeté, je ne sais pas, peut-être le lendemain de la nouvelle à la télévision. L'accusé semble soudain déstabilisé. Au moment crucial, sa mémoire, jusqu'ici si précise, sur des détails insignifiants, semble lui échapper. « Je m'en tiendrai là », dit le président avec un sourire carnassier.
Alors, vous étiez à ce procès.
Oui.
Évidemment, tout ce que peut dire pour sa défense Jean-Marc Depardieu est pris, comme on vient de l'entendre, alors qu'en fait, le plus important dans tout cela, c'est l'analyse scientifique, l'expertise de ce produit, pour savoir si oui ou non le produit que possédait Jean-Marc Depardieu, même s'il a menti à un moment sur le fait qu'il en avait ou qu'il en avait pas, est-ce que c'était le même produit ?
Alors en fait, c'était plusieurs choses. Enfin, je peux parler des produits, mais c'était plusieurs choses. Et quand je réentends ces bandes-là, je vois la distance qui nous sépare de ce temps et aussi la manière dont était instruite, puisqu'on parle des talents de juge d'instruction du président Reynaud à l'époque. Sincèrement, il eût fallu qu'il utilise ses talents sur d'autres confrontations, qu'il y avait plein de questions qu'on pouvait poser à l'audience. Et
qui n'ont pas été posées.
Qui n'ont pas été posées, parce que tout à l'heure vous avez fait le récit de la journée du 11 juin 94. Il faut savoir que ce récit ne repose que sur les déclarations des Tocqueville. Et que par exemple, moi il m'est apparu assez vite après en enquêtant que le médecin et l'infirmier, quand ils interviennent le soir du drame, n'ont pas eu des indications. Vous avez parlé de maux de tête, de vomissements. Ils n'ont pas du
on
tout
leur a pas dit ça.
On leur a pas dit. Non, on leur a pas dit. Et ils sont, après coup, enfin, ils sont extrêmement étonnés de, qu'on ne leur ait pas dit. Et surtout, ils disent que s'ils avaient eu des informations selon laquelle elle se serait plainte de brûlures, qu'elle serait allée directement au robinet, tout ça, évidemment, ils auraient suspecté un problème toxique et ils auraient agi autrement. À l'époque, ils étaient sur une rupture d'anévrisme. On était très, très loin de tout ça. Alors, vous parlez du produit. Ben, le produit, il faut savoir que Jean-Marc de Perrois a jeté son cyanure. Donc, on n'a jamais pu savoir précisément quel était son cyanure. Et qu'après, en fait, même scientifiquement, les expertises, comme tous les éléments, étaient concentrés à charge. C'est-à-dire que l'idée, c'était de montrer que il s'était procuré un cyanure dans des lots qui étaient éventuellement comparables avec le produit retrouvé dans le flacon. Mais ceci avec des, quand on regardait dans le dossier, avec des marges d'erreur de 20%. Et puis, il fallait aussi expliquer, par exemple, comment le produit, il se trouve que c'était un vieux cyanure qui était dans le flacon, il fallait expliquer pourquoi c'était un vieux cyanure, alors que Jean-Marc de Perrois avait un cyanure neuf. Oui. Et à ce moment-là, l'expert, après avoir fait avoir expliqué qu'il avait mené une expertise très, très scientifique, rigoureuse, etc., disait, ben écoutez, même à 37 degrés constant pendant un mois, il faut chauffer même à 37 degrés, on n'y arrive pas, il faut chauffer le cyanure pour obtenir la dégradation, le vieillissement accéléré, si vous voulez, dans le flacon. Oui. La Normandie est un beau pays, mais sincèrement, même au mois juin, les relevés météo, c'est entre 11 degrés et 17 degrés. Il était donc assez inconcevable de penser que ça pouvait être le cyanure de Jean-Marc de Perrois qui était en cause.
On a essayé de trouver une explication en disant qu'il l'avait peut-être conservé dans un vide-poche de
la boîte à gants.
Dans la boîte à gants de la voiture, etc.
Faire l'expérience,
etc. Enfin, voilà. Mais, non, mais bon, vous, quand vous étiez là, assisté à ce procès, vous n'étiez pas tout seul, vous parliez avec les autres gens. Quel était le sentiment de la presse?
J'allais dire, il y avait quand même un consensus. Alors chacun pouvait avoir son intime conviction, mais il y avait au moins un consensus chez les chroniqueurs judiciaires, j'allais dire réguliers, de la presse nationale, me semble-t-il, pour dire que le doute devait, il était quasiment évident que le doute devait lui profiter. Ça a été une vraie surprise. D'ailleurs, au moment du verdict, moi, j'avais jamais assisté à un tel verdict. Jean-Marc de Perrois s'était effondré dans le box à une syncope, et puis il y avait des invectives, un brouhaha. C'était terrible comme moment. Les parents de la petite Émilie étaient pris aussi à partie. Enfin bon, voilà.
Alors, on va entendre Jean-Marc de Perrois dans un petit instant après cette pause. C'est une de ces rares interventions après être sorti de prison et avoir récupéré surtout le droit de s'exprimer. Le 10 juin 2014, il était pour la première fois, je crois, dans un studio de radio. C'était ici, à RTL, dans l'heure du crime.
Jacques Pradel, l'heure du crime.
Jusqu'à 21h sur RTL.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Dumay et dans quelques secondes de maître Valérie Rosano du barreau de Paris, l'une des avocates de Jean-Marc de Perrois, qui va pouvoir nous donner quelques explications sur cette troisième demande en révision qui devrait être déposée, mais elle nous dira quand et sur quelle base, bien entendu, dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on entende Jean-Marc de Perrois. On dit, et on a toujours dit que depuis le début de l'affaire, il a toujours dit qu'il était innocent. Et le 10 juin 2014, lorsqu'il participe à une émission de l'heure du crime sur son affaire, il réaffirme son innocence, ce qui n'étonne personne, et il maintient que malgré le rejet de la seconde demande de révision de son procès, c'était en 2009, je crois, il y en aura d'autres.
Il y aura une troisième demande, et même une quatrième, une cinquième. Il y aura toujours une demande de révision pour que j'obtienne la révision de mon procès, pour que je sois reconnu innocent.
Vous avez passé 12 ans incarcéré, condamné à 20 ans, libéré en 2006. Vous avez pensé, tout au long de ces années, vous n'avez jamais pensé à baisser les bras?
Jamais. Jamais. J'ai été incarcéré et dans la cellule où j'étais, mais je ne me suis jamais installé dans cette pièce. Et mes mes bagages étaient toujours prêts, parce que j'avais pensé à l'époque que quelqu'un viendrait dire, Jean-Marc de Perroy, vous êtes libre, parce que c'est pas vous.
Bonsoir, maître Valérie Rosano.
Bonsoir, monsieur.
Merci d'avoir accepté de participer à cette émission pour nous éclairer aussi sur, sur l'avenir judiciaire de tout cela, puisque apparemment Jean-Marc de Perroy continue à vouloir absolument une révision de son procès. Il y a quelques secondes, hors micro, Jean-Michel Dumais me faisait remarquer qu'on avait révisé la procédure de révision. Comment s'annonce cette future demande ?
Alors, pour l'instant, nous sommes en train de la rédiger, et pour ne rien vous cacher, nous sommes dessus depuis plusieurs mois, parce que vous imaginez bien que rédiger une requête en révision, compte tenu de l'importance que ça revêt, oui, et de la nécessité d'avoir un fait nouveau, puisque même si les dispositions légales ont changé, le fait nouveau reste d'actualité. Nous sommes donc toujours sur la phase de rédaction. Donc pour le moment, nous sommes en train de solliciter un certain nombre de personnes pour avoir confirmation des éléments que nous voulons avancer. Et lorsque nous aurons la totalité de ces éléments, nous pourrons déposer effectivement la requête en révision devant la Cour de révision.
Mais vous nous confirmez qu'il faut toujours un fait nouveau. Je croyais que les choses avaient évolué, qu'il suffisait d'un doute qui aurait pu être pris en compte ou mieux pris en compte au moment où le procès s'est déroulé, c'est-à-dire en 97.
Il faut quand même démontrer l'existence d'un fait que les jurés ne connaissaient pas à l'époque du procès. Donc c'est forcément toujours un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne qui a été condamnée.
Mmh. Alors j'imagine que quand on prépare, comme vous êtes en train de le faire, une troisième demande en révision, on s'est intéressé de très très près à ce que contenaient les deux premières et les raisons pour lesquelles la justice aurait rejeté ces deux premières demandes. Parce que ces deux premières demandes étaient fondées également sur ce que ces avocats et Jean-Marc de Perroy considéraient comme des faits nouveaux.
Alors l'intérêt de la réforme, c'est justement l'obligation dorénavant pour les magistrats de réexaminer les requêtes précédentes. Donc inutile de vous dire qu'effectivement, les moyens que nous envisageons de déposer vont dans le même sens que les précédentes requêtes qui ont été examinées par la commission de révision et qui ont été rejetées. Mmh. Alors les moyens du rejet sont donc évidemment discutables. Nous aurons affaire à de nouveaux magistrats, ce qui n'était pas le cas lors des précédentes requêtes, puisque nous avons été jugés par les mêmes juges, ce qui était un peu une aberration. Mais donc là, nous aurons affaire à de nouveaux magistrats et nous pourrons réévoquer effectivement les moyens qui avaient été soulevés précédemment. Mmh. Et qui vont toujours dans le même sens, hein, évidemment, celle de l'innocence de Jean-Marc de Perroy.
Ouais. C'est à quelle échéance dans le temps ?
J'espère le plus rapidement possible. Vous savez qu'il y a un certain emballement médiatique, nous sommes assez loin de cette préoccupation. Donc l'idée, c'est de faire une requête la plus complète possible. Et s'il faut y passer encore quelques semaines, voire quelques mois, nous prendrons le temps, compte tenu de l'enjeu.
Bien. Ma dernière question, maître, c'est juste de savoir quel est l'état d'esprit en ce moment même, donc de Jean-Marc de Perroy, toujours combatif, inquiet.
Toujours combatif, toujours mobilisé, toujours avec une certaine foi malgré tout dans l'institution judiciaire. Donc on espère que cette fois-ci, la requête en révision sera effectivement acceptée et que les questions que peuvent se poser les uns et les autres, et notamment Madame Tanet, seront soumises à l'éclairage de la justice et qu'une nouvelle procédure pourra être engagée avec la révision à la fin et l'innocence de Monsieur de Perroy.
Je vous remercie beaucoup, maître. Merci infiniment de nous avoir donné ces informations. Et pour terminer, il nous reste un petit peu plus d'une minute. Jean-Michel Dumais, vous avez lu évidemment ce livre, puisque vous avez été l'instrument de cette rencontre entre Corinne Tanet et Jean-Marc de Perroy. Effectivement, dans son livre, Corinne Tanet dit que, au-delà de ce qui concerne Jean-Marc de Perroy, elle dit, mais on n'a pas répondu à beaucoup des questions que nous, la famille d'Émilie, nous posions.
C'est toute la nouveauté de cette troisième demande de révision et du côté exceptionnel de la rencontre dont vous parlez tout à l'heure, c'est qu'on va se trouver dans le cadre d'une troisième demande où la partie civile qui généralement est plutôt hostile, enfin en tous les cas celle-ci était hostile lors des deux premières requêtes, va se positionner différemment. Madame Tanet a dit que voilà, si une troisième requête était déposée, elle avait ses questions à poser, et dans son livre, elle amène même des réflexions nouvelles sur ce qui s'est passé le soir du 11 juin 94. Et pour ma part, j'ai confiance, comme Jean-Marc de Perroy d'ailleurs, j'ai confiance que l'institution judiciaire pourra enfin réparer l'erreur.
Voilà, malgré le fait, et il faut le noter quand même au passage, qu'il n'y ait jamais eu aucune reconstitution judiciaire de cette fameuse soirée du drame.
Tout à fait.
Merci beaucoup Jean-Michel Dumay. Je rappelle le titre de ce livre, votre livre paru chez Stock en 2003, Affaire Josacine, le poison du doute, qui garde toute son actualité. Vous en apercevrez si vous plongez dans ce livre absolument remarquable. Je le dis à la fin de l'émission, on ne peut pas faire trop rougir Jean-Michel Dumay, mais c'est un livre vraiment remarquable sur le dossier. Et puis le livre de Corinne Tanet, très intéressant, aux éditions Grasset, La réparation volontaire. L'émission est maintenant terminée.